Alors, hier, je vous rappelle ce dont nous avons parlé, en quelques mots. J'ai essayé d'abord de vous montrer que dans le début du premier livre de la Bible, la Genèse, nous avons un fil rouge qui est constitué, de manière un peu étonnante, par des généalogies. C'est comme ça que l'histoire avance. Ah ben là, c'est encore mieux. L'histoire avance au fil des générations, et pendant ce temps, comme je vous l'ai suggéré, Dieu a une idée bien précise en tête. Il calcule ses coups longtemps à l'avance et il fait en sorte que tout se dirige vers la solution au problème fondamental que connaît l'humanité. Et ce problème fondamental, on en a parlé hier soir, c'est que l'homme a un cœur qui est tourné vers le mal. Chacun a fait l'expérience, on ne peut pas s'empêcher de faire, même si c'est à petite échelle, du mal presque un petit peu tous les jours. Or, la manière même dont les choses sont présentées dans les 11 premiers chapitres de la Genèse suggère que ce problème fondamental ne peut pas être réglé par l'homme lui-même. On ne peut pas s'en sortir nous-mêmes. D'ailleurs, c'est la grande particularité du christianisme par rapport aux autres religions. Dans toutes les autres religions, vous essayez de vous perfectionner, de plus ou moins mériter votre salut, de vous approcher de la perfection. Mais c'est l'homme qui lui-même essaye de se sauver d'une manière ou d'une autre. Dans le christianisme, dans le judaïsme déjà, dans l'Ancien Testament, dès les premiers chapitres, implicitement, on vous suggère nettement même que c'est même pas la peine d'essayer. Dieu vous dit, ok, vous voulez essayer ? On prend un petit bien, on recommence l'humanité. J'ai essayé avec Noé, et voilà ce que ça a donné. Le péché, le mal s'est remis à flamber de plus belle. Alors ça, c'était donc une vision un petit peu, c'était un petit peu le côté déprime, vous savez, dans le titre qu'on a donné, Genèse 1 à 12, de la déprime à l'espoir. Hier soir, on avait déjà en creux, vous savez, vraiment un petit peu comme quand on a un négatif dans une diapo, c'est un petit peu à l'envers, ou en creux, la solution qu'il nous faudrait. Et je vous ai suggéré que ce qu'il nous faudrait, que le texte nous suggère, que ce qu'il nous faudrait, ce qui nous manque, c'est quelqu'un qui soit une sorte de deuxième Adam, un nouvel Adam, un homme qui soit pris par Dieu pour recommencer d'une certaine manière l'humanité, mais à condition que, contrairement à Noé, lui-même ne soit pas atteint par ce mal qui est dans nos cœurs. C'était ça le manque fondamental. Et nous avons même vu qu'à l'issue de ces 11 premiers chapitres de la Genèse, on débouche non pas sur le super-héros qu'on attendrait, si je puis dire, mais sur un personnage important qui est Abraham. Et je vous ai déjà suggéré que, vous le savez, dans la suite du texte biblique, de toute la Bible, on voit qu'effectivement, via le fil rouge des généalogies, on va aboutir à un descendant d'Abraham, qui sera Jésus-Christ, et qui, lui, va être clairement compris comme étant ce nouvel Adam qui nous manquait, qui n'a pas de péché, et c'est grâce à lui que nos vies peuvent être transformées de l'intérieur pour non pas être parfait d'un seul coup, parce que je ne vois pas grand monde dans cette salle que je considère comme parfait, mais qui puisse déjà être tourné fondamentalement vers le bien, avoir le cœur renouvelé en entendant le retour de Christ pour la devenir parfait à son image. Il est donc temps, largement même, de parler d'Abraham, ce fameux Abraham. Je vais essayer de vous montrer, dans la même logique que ce qu'on a vu hier, que dès le début de l'histoire d'Abraham, Dieu donne un programme qui n'est pas pour simplement un quinquennat, mais qui est pour, disons, alors Abraham c'est quoi ? C'est à peu près, on va dire 2000 avant Jésus-Christ, quelque chose qui est encore valable 4000 ans après. Et on va voir que dans le chapitre 12, il est question de vous et moi, directement. Alors regardons un petit peu ça. D'abord, donc c'est ce que j'appelle le plan de Dieu qui est enclenché. Alors on se resitue un peu dans le contexte avec une photo de... Enfin une photo, quelque chose que j'ai piqué sur Google Earth, bien sûr, avec une vue générale du Proche-Orient. Et vous avez la Mésopotamie, l'Irak actuel si vous voulez, et j'ai mis une petite pastille rouge, ça c'était pour Babylone, on en a parlé hier, et une petite pastille, une épingle jaune, pour la ville de Ur, dans la Bible, on vous dit que Abraham vient de cette ville. Ça va, vous vous rappelez de ça? Pourquoi tout le monde parle? Il y a quelque chose? C'est bon? C'est bien Our? C'est où Our? Bon, désolé. Bah, c'est les petites pastilles de Google Earth, ça. Ça peut s'augmenter. Alors voilà, c'est juste pour se replacer. Et puis, juste deux, trois images. Je vous rappelle qu'on a vu hier la fameuse ziggourat, qui date à peu près l'époque d'Abraham, d'après les archéologues. Donc, autant vous dire que ce n'était pas un petit bled paumé. Hein. C'était vraiment une... C'était même la capitale d'un empire qui a duré presque jusqu'à l'époque d'Abraham. Un empire qui recouvrait une grande partie de la Mésopotamie. Donc c'était vraiment une des capitales du monde de l'époque. Et d'ailleurs, on a retrouvé des choses intéressantes, qui sont un petit peu plus anciennes qu'Abraham, mais je ne risque pas à vous le montrer. À gauche, c'est pour messieurs, et à droite, c'est pour les mesdames. Voilà, des jolies parures. C'est pas mal quand même, hein. Ça irait bien sur certaines d'entre vous. Et puis, enfin je pense, et puis ce qui est à gauche, ça irait bien sur certains d'entre vous. Oui ? Ouais ? Surtout avec le chignon derrière, c'est ça ? À tout à gauche ? Il faut observer. Hein. Bon, c'est juste pour vous dire, ce n'était pas n'importe quelle civilisation. C'est vraiment pas un type qui sort de n'importe où. Et quand Dieu l'appelle, d'abord il va faire un long chemin jusqu'en Syrie, et après Dieu va l'appeler à aller encore plus loin, il ne part pas de n'importe où. Alors, une fois qu'on a dit ça, si on regarde la diapo suivante, ah oui, c'est encore une jolie œuvre d'art que je voulais vous montrer. Vous n'êtes peut-être pas sensible à ça, mais bon... Pour... Les archéologues sont très sensibles à ça, hein. C'est un beau bouquetin, doré, etc. Bon, la finesse de l'art de l'époque. Mais si on regarde la suite, je vais essayer de vous montrer, de vous suggérer qu'avec Abraham, on a une sorte de coup de tonnerre qui s'abat dans le texte biblique. Ça n'est pas simplement qu'on passe à la suite et tranquillement, en germe, de manière très douce, Dieu suggère les choses. On va voir que Dieu prend les choses en main d'une manière franchement radicale. D'abord, on a un renversement spectaculaire par rapport à tout ce qu'on a vu dans les 11 premiers chapitres. Dans les 11 premiers chapitres, bah c'était vraiment la déprime quand même. Hein. Pas en creux, mais directement, c'était vraiment un peu déprimant parce que le mal progressait, il y avait des histoires un peu sordides avec les, vous rappelez, les fils de Dieu, tout ça, un peu bizarroïde. Bon. Eh bien, on se rend compte que dans Genèse 11, il était question beaucoup de mort. Je vous ai même dit que c'est une anomalie fondamentale. Le message biblique commence par vous dire la mort qui est omniprésente dans notre société, qu'on essaie de cacher le plus possible, sauf dans les romans policiers. Plus on en parle dans les romans policiers et dans les experts, etc., moins on s'y confronte dans la réalité. On planque ça dans les hôpitaux, etc. Tout ça, c'est une anomalie fondamentale. Ce n'était pas ce qui devait arriver au départ. Eh bien, à cette mort, on va opposer, dès le début du chapitre 12, une sorte d'explosion de vie, Dieu va appeler Abraham. Et d'un seul coup, je vous rappelle qu'Abraham n'a pas d'enfant, et il a, je crois, 75 ans, il dit, tu vas avoir une descendance qui sera nombreuse. Donc, d'un coup, on a plein de vies qui sont prévues. Jusqu'à présent, il a été question de malédiction. À plusieurs endroits, la terre a été maudite suite à la faute d'Adam. Caïn lui-même a été maudit. Vous vous rappelez aussi de Canaan qui était maudit. Il y a plusieurs fois des questions de malédiction. D'un coup, il est question de bénédiction. Et même deux lignes plus loin, j'ai noté que dans Genèse 11, on a cinq versets où on dit « maudire » ou bien « malédiction », un mot de cette famille-là, cette racine « maudire ». Et ça, c'est réparti sur les chapitres 3 à 11, pas mal de chapitres. D'un seul coup, en Genèse 12, en une poignée de versets, vous avez comme une sorte de réplique, cinq fois « bénir ». D'un coup, on passe à la bénédiction. Ouais, le changement, c'est maintenant, mais dans Genèse 12, hein, si vous voulez. Bon. Là, c'est un vrai changement, pour dire. Bon. Et puis, la terre. Il était question de la terre dans les premiers chapitres. Et on nous disait que finalement, bah, au début, c'était sympa. L'homme était, et la femme étaient placés dans un jardin, le jardin d'Éden. Et puis, ils s'en font expulser. Et parmi les sanctions suite à leur insulte face à Dieu, eh bien, la terre sera difficile à cultiver. Elle est maudite, c'est dit expressément. Et bien justement, ce qu'on dit le pays promis, hein, le pays qui est promis à Abraham pour sa descendance, il faut savoir que c'est le même mot. Parfois on le traduit par terre, parfois on le traduit par pays. On peut dire donc pays promis, terre promise, c'est pareil. D'un seul coup, là, on a une valorisation d'une terre qui est promise à Abraham. On va y revenir. Et puis finalement, il y a une petite ironie, parce que juste avant de parler d'Abraham, un petit peu avant, chapitre précédent, on vous présente les hommes qui construisent la ville de Babylone, construisent la tour de Babel, jusqu'à ce que Dieu les interrompe. Et un de leurs buts est mentionné explicitement dans le texte. Ils veulent se faire un nom. En fait, on pourrait dire un renom. C'est une façon, dans l'Ancien Testament, de parler de la célébrité. Ils veulent devenir des grands hommes célèbres dont on se rappellera des siècles après à cause de leur construction. Et puis Dieu balaye tout ça. D'un coup, on arrive à Abraham qui ne demande rien du tout. Et Dieu lui dit, toi, je rendrai ton nom grand. Toi, tu vas être célèbre. Tu n'as rien demandé, toi, tu vas être célèbre. Alors c'est un petit peu frappant tout ça. Je vous propose qu'on regarde, qu'on lise le texte de Genèse 12 pour nous pencher là-dessus. Le début de Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, déménage, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je vous rappelle qu'il n'y a pas d'enfant, hein, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Deviens donc, tu seras, à mon avis, une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui, c'est son neveu. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran, quelque part en Syrie. Abraham prit sa femme Sarai et son neveu Lot, avec tous les biens qu'ils possédaient et le personnel qu'ils avaient acquis à Haran. Un vrai déménagement. Ils sortirent pour se rendre dans le pays de Canaan, plus au sud. Ils arrivèrent donc au pays de Canaan. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Moré. Les Cananéens habitaient alors dans le pays. L'Éternel, le Seigneur, apparut à Abraham et lui dit, « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Jusqu'ici, notre lecture. Dans ces sept versets que je viens de lire, Dieu fait plusieurs promesses en bloc. Il dit à Abraham plusieurs choses. D'abord, il dit, première chose, déménage. Tu pars. Tu es bien installé, etc. Tu pars plus au sud, vers le pays que je te montrerai. Et au début, il ne lui dit pas précisément lequel. Et puis, il lui dit, je ferai toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras, à mon avis, ça serait la meilleure traduction, tu seras une source de bénédiction. Et à tel point que je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et une fois qu'il s'est déplacé et qu'il arrive dans le pays promis, c'est là que le Seigneur lui dit, tu vois ce pays, il est pour ta descendance. Je le donnerai à ta descendance. Vous voyez, il y a quatre éléments principaux en fait. Il lui dit, ta descendance aura une grande nation, je ferai toi une grande nation. Tu seras une source de bénédiction, il y aura un pays pour ta descendance. Voilà, donc il y a plusieurs grands éléments qui d'un coup sont donnés à Abraham. Et je vous rappelle qu'il n'avait rien demandé. C'est Dieu qui vient le chercher et qui lui dit, toi, je vais faire ça. Or, ça, c'est à la fois en continuité avec ce qui précède dans Genèse 11, je vais vous le montrer, et en même temps, c'est complètement hallucinant. Alors pourquoi est-ce que ça ressemble à ce qu'on a vu avant ? Commençons par ça. Alors, on peut regarder dans un tableau et revenir, je fais un petit flashback. Au tout début. Qu'est-ce que le Seigneur a dit ? Qu'est-ce qu'il a donné comme ordre à ses créatures ? Alors, on ne le sait pas forcément, mais il a commencé par parler aux animaux. Dieu les bénit et il leur dit, croissez et multipliez. Remplissez les eaux, multipliez-vous sur la terre. population, si vous êtes des poissons, ou bref. Ça, c'était dit aux animaux. Ok ? Mais, une fois qu'il a créé l'homme, il dit la chose suivante. Alors, d'abord, il les bénit, encore une fois, et il leur dit, croissez et multipliez. Même chose. Remplissez la terre. Bon, il nous épargne pour les eaux, parce que c'est pas très facile de vivre longtemps sous l'eau. Et il rajoute quelque chose. Soumettez-la, la terre, et commandez aux animaux. Quatre éléments principaux. Ça, c'est pour Adam et Ève. Mais ces choses-là sont reprises une fois que le déluge est passé et que Noé, qui sert de nouvel Adam, nouveau recommencement, et ses fils arrivent sur la terre ferme. Dieu bénit Noé et ses fils. Même chose. Croissez et multipliez. Il rajoute foisonnez. Remplissez la terre. On retrouve les mêmes éléments. Faites des bébés comme ça, par exemple. Que la peur de vous, j'ai traduit littéralement, pour pas dire que votre peur, mais la peur de vous, la terreur de vous soit sur les animaux. C'est-à-dire que vraiment, ils vous respectent. Ça ne veut pas dire terroriser les animaux, etc. Faut pas... Sinon Brigitte Bardot va m'écrire. Non, c'est pas ça. Mais c'est juste pour dire, c'est vous les mettre sur terre. Vous êtes censé être la créature qui va ordonner les choses, on va dire. Alors vous voyez comme ça que ces éléments se retrouvent. Il y a une sorte de continuité entre les différentes paroles du Seigneur. Eh bien, sur ce fond-là, des ordres que le Seigneur a donnés au début à l'humanité, au commencement, et puis au recommencement, c'est sur ce fond-là qu'on peut lire, pour bien la comprendre, la promesse que Dieu fait à Abraham, en regardant précisément comment chaque élément de cette promesse est en écho à ce qui précède. Jetons un coup d'œil. J'ai rassemblé les choses en deux petites colonnes. Dieu avait béni à chaque fois. Là, il parle au futur. Je te bénirai. Et il dit aussi, tu seras une bénédiction. C'est au futur. On est déjà dans un projet. Il ne dit pas, vas-y, multiplie-toi. Ce qui aurait été un petit peu trash quand même, parce qu'Abraham, le pauvre, sa femme est stérile, bon, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Ça aurait été un petit peu difficile quand même. Hein. Mais qu'est-ce qu'il lui dit ? Je ferai de toi une grande nation. Il parle au futur, et il commence par dire, je ferai de toi une grande nation. Il commence à prendre les choses en main. Et plus loin, il dit, je rendrai ton nom grand. C'est moi qui vais faire les choses. En ce qui concerne la terre, il lui promet à l'avance, une terre spéciale pour lui. Un pays spécial dédicace, descendance d'Abraham. À ta postérité, je te donnerai ce pays que tu vois, le pays des Cananéens. Et il dit même, au sujet de la terre, c'est là que c'est beau en fait, hein. Autant on avait une promesse, un ordre global, remplissez la terre. Autant là, il dit, tu vois ce pays, c'est pour ta descendance, mais j'oublie pas le reste de la terre. Toutes les familles de la terre, tous les autres pays, les autres ethnies, etc., seront bénies en toi. Vous voyez que l'ordre de remplir la terre est remplacé par deux promesses qui scindent des choses en deux. Un pays promis pour la descendance d'Abraham et en même temps une promesse pour tout le reste de la terre qui sera béni grâce à Abraham, grâce à cette descendance. Et puis finalement, il n'est plus question des animaux. On passe à quelque chose de supérieur. Je maudirai celui qui te maudira, je bénirai celui qui te bénira. Ce n'est plus Abraham qui doit soumettre qui que ce soit, c'est Dieu qui va veiller à ce que les rapports entre Abraham et les autres soient bénéfiques pour Abraham. Ceux qui s'attaqueront à lui, Dieu s'y attaquera. Ceux qui béniront Abraham, Dieu les bénira. Vous voyez donc, c'est encore une question de rapport entre les personnes auxquelles Dieu s'adresse et le reste, mais on est passé à un stade supérieur et plus subtil. Ce qui est frappant là-dedans, c'est un, que chacun des éléments de la promesse donnée à Abraham fait écho aux ordres qui étaient donnés dans les 11 premiers chapitres de la Genèse. On est dans les mêmes catégories, même si hop, on décolle là, on passe à quelque chose de supérieur. Et deux, il ne s'agit plus de commandements, c'est plus des prescriptions, parce que les premiers chapitres, c'était des ordres. Là, Dieu remplace ses ordres par des promesses. Il va se passer telle chose. C'est plus que je te dis, vas-y, fais ça, et puis on va voir si ça marche ou pas. Parce qu'il a essayé pendant 11 chapitres, et l'humanité n'a pas été à la hauteur. Il dit, moi maintenant, on arrête les bêtises. Je prends les choses en main. Je promets que ça, ça va arriver, et c'est moi qui vais le faire. C'est moi qui vais te donner une descendance, c'est moi qui vais rendre ton nom grand, c'est moi qui vais donner un pays à ta descendance, etc. Et c'est moi qui vais veiller à ta bénédiction. Vous voyez donc que les choses sont totalement renversées en une poignée de versets, 7 versets, alors qu'on avait 11 chapitres avant. Ça, c'est vraiment remarquable. Parce que d'un coup, Dieu prend les choses en main, alors qu'avant, il avait laissé l'humanité faire. Je vous rappelle, hein, il avait créé Adam, il avait eu ses fils, l'humanité se développe, le péché dès les premières générations est présent, le mal présent sur la terre. Ça devient tellement dégoûtant pour Dieu qu'il décide de faire comme Bruce Willis et de raser l'humanité. Enfin, il n'a pas fait, mais bref. De noyer l'humanité sous le déluge, sauf un homme avec lequel il recommence. Un homme, un type bien, quelqu'un de juste. Et on a vu que malheureusement, même cause, même effet, le mal reprend son droit, entre guillemets, sur la terre, l'homme se livre à nouveau aux mauvaises choses. Donc Dieu a essayé. Il a même donné, entre guillemets, une deuxième chance à l'humanité. On dit, on va essayer. Ça ne marche pas. Maintenant, on arrête les frais, je prends les choses en main, je dirige, je promets, je donne mon programme, et c'est moi qui l'accomplirai. Cette fois-ci, on est sûr que ça va s'accomplir. Vous voyez donc ce renversement, c'est assez surprenant, d'un coup. Alors ça, c'est pas tout. Si on continue, je vous rappelle... Ah, il y a un tout petit truc qui est passé, mais c'est pas grave. Je vous rappelle à quoi ressemble toute l'histoire d'Abraham. Alors, peut-être pour vous resituer. Hein. D'abord, on vous présente la famille d'Abraham. Puis on a la promesse dont je viens de vous parler. Bon, ça continue. Abraham va en Égypte et vous rappelez que sa femme Sarah, il l'a fait passer pour sa sœur, ce qui fait qu'elle se retrouve chez le pharaon. Histoire un peu bizarroïde. Bon, mais c'est comme ça. L'histoire avance. On a une guerre qui est mentionnée contre Sodome et Gomorre, ces fameuses villes, avec Lot qui va être sauvé d'un kidnapping par son oncle Abraham. Bon, puis on a un épisode, c'est le E, où Dieu fait alliance avec Abraham. Et enfin, la naissance du fils aîné, Ismaël. Une fois qu'on a parcouru ce chemin, que j'ai numéroté A, B, C, D, E, les choses reprennent, mais un petit peu en sens inverse. On a encore une alliance qui est faite avec Abraham, E prime, comme en miroir avec ce qui précède. On a encore des épisodes qui concernent Sodome et Gomorre. Et encore Lot, qui est encore sauvé de la destruction. C'est F prime, pardon, D prime, je vais y arriver. Rebelote, Abraham présente encore Sarah comme sa sœur. Parce qu'il a peur de se faire tuer, parce que ouais, on tue le mari et puis on prend la femme. Ça arrivait en fait en Égypte. Hein, on a trouvé un texte où c'est mentionné. Le pharaon qui dit « Allez me prendre telle femme » et puis vous zigouillez le mari, quoi, comme ça, elle est libre. Bon, c'est une façon de fonctionner. Mais bon, c'est en écho à ce qu'on avait vu juste avant, ce qui fait que c'est une sorte de C'. Et puis, tout en dernier, on a, en écho avec ce qui précédait, quelque chose sur la famille d'Abraham. Hein, on fait une sorte de clôture au sujet de la famille d'Abraham. Et juste avant, il y a quelque chose que je vous ai dit, dont je vous ai dit hier, que je vous l'expliquerai aujourd'hui. Je vous ai dit comme ça, vous voyez, B' là, les chapitres 21-24, entre parenthèses, hein, ce sont les prémices de la réalisation de la promesse. La promesse qui est faite tout en haut, là, au chapitre 12, le B, dans les chapitres 21-24, ce que j'appelais B', ça commence à se réaliser. Et bien sûr, comme vous êtes gentil, vous m'avez cru sur parole. Eh bien, on va essayer de voir ensemble en quoi cette promesse commence vraiment à se réaliser dans l'histoire d'Abraham. Et je pense qu'à la fin de cette session, je vous aurai montré qu'en fait, pour que ça soit vraiment réalisé, il faut attendre Jésus et même nous. Alors regardons ça. Alors d'abord, si on regarde la big picture, j'essaie de travailler mon accent pour Manu, on voit qu'il y a des problèmes. La femme d'Abraham, avant de regarder le petit B prime, hein, je veux quand même jeter un coup d'œil global. Dans cette histoire, il y a quand même des gros soucis avec l'accomplissement de la promesse. Chapitre 12, début du chapitre 12, Dieu promet à Abraham qu'il va avoir une descendance. Qu'est-ce que fait Abraham à la fin du chapitre 12 ? Il pomme sa femme. Ce qui est quand même pas terrible pour avoir un enfant. Puisque, pour pas se faire tuer, il fait passer sa femme pour sa sœur. Et du coup, elle se retrouve chez le pharaon. Ce qui est moyennement génial hein, pour un mari. Bon. Donc, quelques versets après la promesse, on n'a même pas encore d'enfant. À long terme, on est censé avoir une grande nation. On perd son épouse. Première chose qui est un peu gênante. Et le même problème se produira en Séprime, chez Abimélec, le roi des Philistins. Abraham va encore perdre une deuxième fois son épouse pendant quelques temps. Bizarroïde quand même. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on vous raconte ces histoires. C'est pas juste pour vous donner des anecdotes. Vous montrer que la promesse était en péril dès le départ. L'alliance avec Dieu, je passe vite, hein, les alliances avec Dieu sont directement liées à la promesse. Avec ces alliances, Dieu formalise les choses. Il fait une sorte de, c'est pas un joli mot, de contrat, mais c'est quand même quelque chose de presque, c'est presque juridique. Il s'engage avec Abraham et c'est un engagement des deux côtés. On a un engagement qui est formel. La naissance d'Ismaël, qui est au centre, je l'ai dit hier. Ismaël, il est béni, sa descendance est bénie, ça c'est sûr. Mais en même temps, on sait d'après l'histoire d'Abraham alors c'est pas un plan B, c'est pas un plan A, c'est le plan qui ne devait pas intervenir. Le plan de Dieu, c'est que la descendance d'Abraham, c'est de la promesse qui va donner le peuple promis, peuple élu si on veut dire. Ça passe par Isaac, le deuxième fils. Or, pendant des années et des années, Abraham attend. Et puis il trouve une solution qui se faisait dans l'Orient ancien, enfin sa femme en fait, sa femme qui lui suggère, prendre une servante et avoir un enfant avec. Et c'est Ismaël. Sauf que ce n'est pas du tout ce que Dieu avait en tête. Ce n'est pas ce qu'il avait prévu. Ce qui fait que Ismaël qui est au centre parce que c'est le fils aîné et que c'est important, ça correspond à un méga détour par lequel Abraham va passer avant que le fils de la vraie promesse naisse. Donc tout ça, c'est un détour. Ce qui fait que dans ces chapitres, vous voyez, c'est un petit peu, comment dire, en clair-obscur. C'est un petit peu du positif, parce que la promesse, elle est formalisée, ça avance quand même. Et en même temps, il y a des dangers pour cette promesse, il y a des détours. Bon. Alors maintenant, penchons-nous sur ces chapitres 21 à 24. On va essayer de voir en quoi les chapitres 21, 22, 23, 24, c'est le début de la promesse. On va même essayer de voir qu'il y a des choses qui pourrait nous paraître étonnante, qu'est-ce que ça fait là, ont un sens. Alors commençons par le chapitre 21, et par le début du chapitre 21. Bon, tu peux passer ? Merci. Chapitre 21, c'est pas très compliqué de voir un lien avec la promesse, parce que le début du chapitre nous relate la naissance d'Isaac. C'est le début, toute première étape de la promesse qui concerne une descendance nombreuses. C'est vraiment le début clair et net de l'accomplissement. Vous êtes d'accord ? Ça, c'est assez évident. Parmi les différents éléments, tu vas avoir une descendance, ça s'enclenche. Une descendance par sa femme, pas par une servante. Le Seigneur agit envers Sarah, selon sa parole. Sarah fut enceinte et donna un fils à Abraham. Les choses commencent à s'enclencher au niveau descendance. On continue parce qu'il y a la suite du chapitre 21. La suite du chapitre 21, ça nous relate une histoire en se demandant pourquoi est-ce que c'était important que ce texte soit dans la Bible ? Dans ce petit récit, Abraham fait alliance avec Abimélec, roi des Philistins. Il fait alliance avec lui. On pourrait dire, quel est l'intérêt de cet épisode ? Mais ça, c'est le tout début du rapport, c'est vraiment les prémices, du rapport entre Abraham et les nations. Les Philistins, techniquement, c'est une ethnie étrangère par rapport à Abraham. Et ça se passe tellement bien, donc il y a une alliance, que dès le début, et c'est intéressant, ce roi philistin reconnaît la chose suivante, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. C'est la première fois dans l'Écriture, dans toute la Bible, qu'on a un personnage étranger qui commence à reconnaître que la bénédiction de Dieu est sur ses enfants. Il commence à reconnaître ça. C'est en germe, c'est le tout début. On constate qu'il y a la notion de bénédiction qui est présente sur Abraham, on le constate même de l'extérieur, et puis on constate également que les relations avec les nations commencent à s'enclencher. Là, c'est plutôt le côté positif que je mentionne. On peut avancer. Le chapitre 22, ça c'est un des chapitres les plus connus, puisque vous savez comment ça fonctionne. Dieu appelle Abraham, il lui dit, « Ton fils, tu vas aller me le sacrifier en holocauste. Tu vas tuer ton propre fils en hommage pour moi. » Alors ça, c'est pas super facile à avaler, hein. Enfin, c'est pas super facile. Là, il faut vraiment une sacrée dose de foi pour suivre le Seigneur là-dedans. Abraham ne discute pas. Il fait tout jusqu'à la dernière étape. Et vous savez qu'à la toute dernière étape, Dieu interrompt l'acte que Abraham s'apprête à commettre. Alors qu'il avait levé, le couteau levé, un messager du Seigneur lui dit d'arrêter. Stop, c'est bon, j'ai compris. Tu allais le faire. Tu étais tellement fidèle à moi que tu étais prêt à tuer ce fils promis. Il faut imaginer ce que c'était pour Abraham. Hein. C'est le fils qu'il a eu avec son épouse. Et normalement, c'est l'étape numéro 1 sur une longue série de générations qui devrait aboutir à une grande nation. Donc au niveau du sens, c'est pas évident à capter. Hein. Il y a des épreuves, parfois on se dit « oui, bon, peut-être le Seigneur veut que je comprenne ça ». Là, ce n'était pas évident. Mais Abraham va jusqu'au bout, jusqu'à ce que Dieu l'arrête. Et alors là, à la fin du chapitre, on a quelque chose de magnifique. Dieu lui reformule sa promesse. Et d'une manière qui est un peu poétique, c'est pour ça que j'ai noté, la promesse est magnifiée. Alors, on peut lire ça. « Oui, je te bénirai, je multiplierai ta descendance, comme les étoiles du ciel et comme le sable au bord de la mer. » Et ta descendance prendra possession de la porte de ses ennemis, et toutes les nations de la terre se béniront ta descendance. Dieu reprend sa promesse, et puis il dit, là ça va carrément comme le sable au bord de la mer. Si on zoome sur ce passage-là, on tombe sur la chose suivante. On va voir que le texte, c'est tellement important, cette parole de Dieu à Abraham, que c'est écrit d'une manière en miroir, comme on a déjà vu. Et j'ai disposé les éléments, vous voyez, c'est super symétrique. Parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, c'est ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel, comme le sable au bord de la mer. Et puis on reprend la descendance, comme dansé, et ta descendance prendra possession de la porte de ses ennemis. Et on reprend la bénédiction, toutes les nations de la terre se béniront ta descendance. Et on reprend le parce que tu m'as écouté. Vous savez, parfois les gens s'étonnent qu'il y ait des répétitions dans le texte biblique, dans l'Ancien Testament. On se dit, attendez, il a dit parce qu'au début, il dit parce qu'à la fin. C'est mal écrit ou quoi? En fait, c'est le contraire. C'est qu'ils écrivaient comme ça, en miroir, assez régulièrement, pour mettre en valeur des choses, pour les présenter de manière esthétique, peut-être pour mieux les apprendre par cœur et les retenir. Donc là, le Seigneur a mis le maximum pour répéter sa promesse à Abraham d'une manière qui est sublimée, qui est magnifiée. Donc chapitre 22, alors là c'est sûr, on est en plein dans la promesse. Et en même temps, vous avez vu, hein, c'est l'endroit le plus net où la promesse paraît mise en péril, puisque le fils aîné, le fils unique qui doit déboucher sur la descendance, ben, il a failli être mort, être tué. C'est au moment le plus bas que le Seigneur répète sa promesse, le plus haut si vous voulez, de la manière la plus belle. On continue, 21-22, ça a l'air d'aller. Et 23, qu'est-ce qui se passe au chapitre 23? Je suis sûr que vous faites beaucoup d'études dans vos groupes GBU sur le chapitre 23 de la Genèse. Autant moi j'aime pas le droit, j'aime pas... Eh bien là, il faut bien reconnaître qu'on a une sorte de négociation, de discussion entre Abraham et des Hittites, peuple antique. Pourquoi faire? Pour acheter un morceau de terrain. Et pourquoi faire? Parce qu'Abraham veut acheter un tombeau, il veut mettre un tombeau dans ce terrain pour Sarah. Et ce chapitre-là, pendant longtemps, je pense que je n'ai pas compris pourquoi il était là. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous raconte ça? Il aurait pu le dire en un verset. Abraham a acheté aux Hittites un terrain pour le tombeau de Sarah. Point barre. Pourquoi est-ce qu'il prend des versets et des versets pour nous raconter les détails de la négociation? C'est pas pour nous ennuyer, c'est sans doute pour attirer notre attention sur l'importance de ce truc-là. C'est pas quelque chose qu'on mentionne en passant dans un verset. Parce que c'est un épisode important dans la big picture, dans le plan de Dieu, dans le programme qui est en train de commencer à se réaliser. Ce morceau de terrain, c'est le premier lopin de terre possédé par Abraham sur le territoire qui est promis. Par la foi, Abraham croit ce que lui dit Dieu. Il croit que vraiment, le pays en question, ça sera pour sa descendance, même si c'est lointain et tout. Il achète déjà un morceau de terrain pour que sa femme soit enterrée là, que sa femme se trouve sur le territoire promis. Ça, c'est un sacré acte de foi. On trouve un petit peu la même chose quand Jérémie va acheter un morceau de terrain. Ça sera aussi un acte de foi de la part du Seigneur. Donc ce chapitre-là, il n'est pas juste pour raconter des négociations. Si vous regardez à grande échelle, il est en train de vous dire, voyez la promesse du terrain promis, là, de la terre promise. Elle commence à s'accomplir par la foi d'Abraham. C'est comme ça que ce chapitre prend sens dans l'ensemble. Et si on passe au chapitre 24, ah oui, j'ai oublié de dire un truc, heureusement que j'ai mon PowerPoint quand même. Là, on a un aspect relation avec les nations, avec les Hittites, ça se passe bien. Bon, et ils disent même, j'ai cité le verset 6, « Tu es un prince de Dieu au milieu de nous ». Décidément, les nations étrangères autour reconnaissent que ce type Abraham, il a quelque chose avec Dieu. Et c'est visible. Bon. J'ai parlé de la terre promise, mais il y a une limite. Il y a une limite, parce que Abraham dit au verset 4, « Je suis un immigré ». Toute sa vie, Abraham est resté un immigré dans la future terre promise, un résident temporaire. Dans l'Épître aux Hébreux, on vous dira, mais il a vécu comme un nomade, comme un immigré. Il savait que ça serait la terre promise pour ses descendants, mais lui-même a vécu comme un nomade sur ces lieux-là. Donc il y a quand même une limite. On n'est que dans les prémices, c'est qu'une réalisation partielle pour l'instant. Et puis le chapitre 24, moi ça m'amuse pas mal en fait, parce que ça concerne Isaac. Vous vous rappelez cette histoire? Je vous resitue. Abraham dit à son serviteur le plus respectable, le plus âgé, le plus ancien, il dit « Toi, tu as une mission spéciale. Tu vas partir dans la terre des ancêtres là-bas, en Syrie, vers Haran, et tu vas ramener une femme pour mon fils. » Il va là-bas, en Syrie, le serviteur, et il fait une rencontre au bord d'un puits. Il rencontre la fameuse Rebecca. Ça sera la femme d'Isaac, il ramène Rebecca à la maison, Isaac l'épouse et le texte dit qu'il l'aimait. Ah bon, c'est intéressant comme façon de... Papa, tu peux envoyer ton serviteur me trouver une épouse, tout ça. Bon, ça évite bien des tourments d'un côté. D'un autre côté, on n'a pas la photo, quoi. Enfin, je veux dire, il faut être sûr de son coup. Et je ne parle pas du caractère, quoi. Hein. Parce que je ne pense pas qu'il ait pris un petit film en MP4 pour l'envoyer en disant « Vas-y, ça te va, Rebecca, comme ça ?» Donc bon, voilà. C'est une façon de fonctionner antique. Hein. Ben, c'est comme ça. Bon. Alors, ici, il est question de la descendance, puisque je vous rappelle que là, on en est où au niveau de l'étape du plan de Dieu? C'est au niveau jeu d'échecs, là. Comme au jeu aux échecs, on en est où? On a avancé un pion, on en est au deuxième coup. Tout le monde dire que la partie n'est pas encore palpitante. Sauf pour les gens qui savent vous dire « Ah ouais, t'as avancé tel pion ?» Tu as telle combinaison en tête, je vois les 20 prochains coups, parce qu'il y en a qui connaissent par cœur tout ça. Bon, voilà. Moi quand j'avance mon pion, je n'ai pas 20 coups à l'avance dans la tête, mais il y en a qui arrivent. Bon, c'est comme ça. Alors là, on est au tout début du plan de Dieu. Il est question d'une grande nation, d'un pays qui va être possédé. Pour l'instant, on a un fils. Et pour qu'il ait la génération suivante, il faut qu'il trouve une femme. Mission accomplie. C'est ça aussi le sens de ce chapitre. Ce n'est pas simplement nous raconter l'histoire un peu pittoresque de la... trouvaille de Rebecca, c'est aussi montrer, mais vous voyez, les choses s'enclenchent. Hein? Le fameux Isaac, il va avoir une femme, et on l'espère, il aura un enfant. On va voir que c'est moyennement simple, en fait. Et ce qui est intéressant, il y a des petites phrases comme ça, hein, au passage, qu'il faut relever. On vous dit au verset 1, au sujet d'Abraham, le Seigneur l'avait béni en tout. Et quand vous dites ça, ça veut dire que l'auteur biblique vous fait un méga clin d'œil, disant, vous vous rappelez chapitre 12 ? Dieu avait promis qu'il bénirait Abraham. Et il le fait. Ben, c'est ça qu'il faut comprendre quand on lit ce verset. Et puis au verset 50, on vous dit, cette affaire vient du Seigneur, et puis qu'elle devient, donc Rebecca, la femme du fils de ton maître, comme le Seigneur l'a dit. Encore une fois, des gens reconnaissent que le Seigneur gère les affaires de la vie d'Abraham. Ouais, c'est encore cette notion, on reconnaît que voilà, la bénédiction de Dieu est sur Abraham. Et vous voyez qu'ainsi, ces chapitres 21, 22, 23, 24, ils ont tous un rapport étroit avec la promesse qui était annoncée au chapitre 12. Ce sont les débuts de la réalisation de la promesse. En même temps, c'est vraiment les débuts. On n'en est qu'aux toutes premières générations. On n'a qu'un tout petit morceau de terre promise. Abraham reconnaît lui-même qu'il est un immigré. On est vraiment au tout début. Isaac a une femme, mais on va voir qu'il n'a pas un enfant. C'est pas si facile que ça pour avoir un enfant. Parce qu'on va vous dire que sa femme est stérile, en fait. Donc, on est dans les débuts de la réalisation de la promesse. Alors, on peut avancer. Je vous ai remis comme ça le schéma global. Je viens de vous essayer de vous montrer que B', c'est bien les prémices de la réalisation de la promesse. Et je vous ai suggéré juste avant que dans ce qui précède, on a déjà des hauts et des bas avec la promesse. Alors, on va approfondir cela. Si tu peux passer, voilà. Je vais essayer, c'est mon dernier point, de regarder avec vous plus précisément cet aspect. La promesse commence à se réaliser, mais en même temps, ce n'est pas tip-top. On est vraiment au début. On va voir qu'il y avait des obstacles pour chaque élément principal. J'ai choisi les éléments descendance, pays promis et le rapport aux nations. On va ensuite voir que malgré tout, la promesse commence à se réaliser. Et puis on se posera la question, mais quand est-ce qu'elle est vraiment accomplie cette promesse ? Dieu tient ses paroles, mais quand est-ce que ça s'accomplit totalement ? Alors jetons un coup d'œil. Pour ce qui est de la descendance, on a des obstacles assez évidents. Sarah est stérile, Rebecca est stérile. C'est vraiment pas de chance, mais c'est comme ça. À chaque fois, il y a un problème. Alors que je vous rappelle qu'on est aux toutes premières étapes. Hein. Donc, tu vas avoir une grande descendance et tout, la femme est stérile, Dieu accomplit un miracle. On trouve une femme pour Isaac, super, il s'aime, elle est stérile. On est encore bloqué à la deuxième étape. On n'a même pas deuxième génération, il y a encore un problème. Abraham, je vous l'ai déjà signalé, deux fois, il laisse sa femme à un roi étranger. À ce moment-là, l'histoire s'arrête dès le début. C'est avant même d'avoir Isaac. Deux fois, il a failli se rater et perdre totalement son épouse. Donc, si ça avait tenu qu'à l'homme, c'était mal barré. Si ça avait tenu qu'à la nature, c'était mal barré aussi, puisqu'on avait des femmes qui sont stériles. Abraham va même, je vous l'ai signalé, faire un détour, puisqu'il va essayer de faire passer cette promesse de descendance via Ismaël, et c'est pas ça. Et on va en quelque sorte perdre du temps avec ça. On verra même qu'il va y avoir, si vous me passez l'expression, des frittages entre les deux mamans. Hein, entre Agar qui a eu Ismaël, et puis Sarah qui a Isaac. Ça se passe pas très bien. Donc c'était pas une super idée à la base. Bon. Pour le pays promis, réalisons un petit peu. Hein. Vous arrivez dans un pays. Regardez, vous voyez, le nord de la France. On vous dit, ce pays, il est à toi. Mais a priori, il y a déjà des habitants. Il y a les fameux Cananéens, une multitude de peuples qui occupent le pays. Donc, ce n'est pas franchement gagné comme ça. À vue humaine, c'est carrément impossible. Deuxième point, quand Abraham va en Égypte, il y va, chapitre 12, parce qu'il y a une famine. Mais en fait, en faisant ça, il s'éloigne du pays promis. Plus loin, quand il s'agira de la même situation avec Isaac, au chapitre 26, si vous regardez le début du chapitre, Dieu lui dit au tout départ, ne va pas en Égypte. Ce qu'on pourrait traduire par, ne t'éloigne pas de la terre promise, dans un certain sens. Ça, c'est, mon temps a été coulé, oups, ça, c'est gentil. Hein, mais pour ce qui est de Jacob, mais c'est bien pire que ça. Vous vous rappelez l'histoire de Jacob, il usurpe le droit d'aînesse de son frère, Ésaü. Et il lui pique même la bénédiction en se déguisant un petit peu pour se passer pour son frère, devant son père qui le bénit par accident. Sauf que ça, c'est bien mignon. Mais le résultat, c'est qu'il va devoir s'enfuir loin de son frère et il va retourner en Syrie, au point de départ de la famille. C'était de là que le Seigneur avait dit « Va-t'en, tu vas ailleurs, au pays que je te montrerai. » Et il va y séjourner, si j'ai bien compté, 20 ans. 20 ans, loin du pays promis, à cause de ces petites histoires. C'est pas franchement bien barré si on suit ce que les hommes font. Et puis finalement, la famille de Jacob, à la fin de la Genèse, à cause de la famille ne, part en Égypte. Et elle va y séjourner pendant des siècles. On est donc carrément, pendant des siècles, hors de la terre promise. Quand on a l'histoire de Moïse qui démarre, il faut vraiment réaliser qu'on est complètement foutu, c'est complètement désespéré. Non seulement on est dans un pays étranger, on est bien installé, mais en plus on est réduit en esclavage. Autant vous dire qu'on est loin de posséder le pays qu'il y a de l'autre côté, plus au nord. Tout ça, c'est vraiment, c'est mal parti. Hein. Et puis pour les nations, bon, tu vas être une bénédiction, toutes les nations de la terre se béniront en toi. Ça, c'est sympathique. Mais si ça tenait qu'aux hommes, on se rend compte qu'en fait, Abraham va plutôt attirer des ennuis aux nations autour. Les nations autour reconnaissent « Ah oui, tu es béni de Dieu, etc. » Mais lui-même, en fait, par son comportement, il attire des problèmes aux nations. Pourquoi je dis ça ? Parce que toujours dans cet épisode étrange, où il va en Égypte, il fait passer Sarah pour sa sœur. Qu'est-ce que Dieu fait ? Il frappe le pharaon. Et le mot qu'il utilisait, c'est le mot qui est traduit par les plaies dans l'Exode, c'est les plaies d'Égypte. C'est même ironique, parce que cette fois-ci, le pharaon, de la même manière qu'il sera frappé de plaies ou de fléaux du temps de Moïse, cette fois-ci, il est aussi frappé de plaies, mais ce n'est pas parce qu'il est spécialement méchant, c'est parce qu'Abraham ne lui a pas dit la vérité. Et d'ailleurs, il va dire à Abraham, « Mais qu'est-ce que tu m'as fait ?» Dans l'histoire, il n'est pas spécialement coupable. Bon, si vous voulez, il est coupable de prendre toutes les femmes qu'il veut. Petit détail. Mais par rapport à Abraham, c'est plutôt Abraham qui est fautif. Et c'est le pharaon qui lui fait la morale. Ce qui est une inversion ironique par rapport à ce qui se passe du temps de Moïse, où le pharaon est entêté et c'est bien fait pour lui s'il se prend des plaies sur la tête. Mais tout ça pour dire que les entourloupes d'Abraham attirent des ennuis au pharaon. De la même manière, Isaac, il fait la même chose, il fait passer sa femme Rebecca pour sa sœur, et rebelote, le Seigneur va frapper les Philistins, le roi des Philistins. Et on lui dit, mais t'as failli nous faire commettre une faute à cause de ton comportement. Tout ça pour dire que, encore une fois, si ça ne tenait qu'aux hommes, ben la promesse, c'est pas sûr que ça se comporterait d'une manière superbe. Entre parenthèses, en tant que chrétien, on est appelé à faire du bien autour de nous, et malheureusement, on sait bien que dans l'histoire de l'Église, ben, les chrétiens n'ont pas toujours fait que du bien autour d'eux. Donc heureusement que les choses dépendent fondamentalement de Dieu et pas fondamentalement de nous, parce qu'on est quand même loin d'être parfait. Bref, il y avait des obstacles pour les trois aspects principaux de la promesse. Mais en même temps, c'est la suite, on a des débuts de réalisation à chaque fois. Sarah est stérile ? Ok, Dieu la rend enceinte. Pourquoi j'ai mis Rachel ? Rebecca, c'est un lapsus, bon, comme ça. Parce que ma femme, elle s'appelle Sarah, il y a plein de gens qui l'appellent Rachel. On ne sait pas pourquoi, c'est les patriarches. Enfin, les matriarches, en fait. Bon. Rebecca devient enceinte. Dieu résout les problèmes. Pour ce qui est de la descendance, la famille de Jacob va se multiplier en Égypte. À tel point qu'au début de l'Exode, le pharaon, qui est manifestement de pas très bonne foi, qui n'aime pas trop les immigrés, je ne sais pas, il dit, mais ils sont tellement nombreux que si ça se trouve, un jour, ils vont combattre contre nous. Ils sont trop nombreux. Du coup, on va les éliminer. Ou plutôt, on va les réduire en esclavage encore plus. Et ça, ça va continuer. Parce que plus tard, du temps de Salomon, on aura la magnifique formule suivante. On vous dit que Juda et Israël, le peuple de Dieu, est nombreux comme le sable au bord de la mer. Et quand on utilise cette formule, ce n'est pas juste parce que ça fait poétique. Ça vous rappelle ce qui était dit. Rappelez-vous, hein, quand Dieu a répété sa promesse à Abraham, au chapitre 22, de manière magnifiée. Ça sera comme le sable au bord de la mer. Donc là, on constate que Dieu a fait son job. la descendance, ça a vraiment augmenté. C'est un peuple qui est nombreux comme le sable au bord de la mer. C'est une image, hein, n'allez pas dire qu'il fallait compter le nombre d'eux. Bon, c'est une façon de parler. Mais de ce côté-là, c'est bien réalisé. On continue. Pour ce qui est du pays promis, alors j'ai déjà mentionné la première parcelle de terre promise acquise par Abraham. J'y reviens pas. Mais ensuite, évidemment, c'est au moment de la conquête de Canaan à l'époque de Josué que les choses commencent vraiment à devenir sérieuses. On prend possession du pays. Sauf que c'est pas complètement bien réalisé, parce que si vous lisez correctement le livre de Josué, et si vous lisez le début du livre des Juges, vous verrez qu'en fait, il y a pas mal d'endroits où les Cananéens sont restés en place, où les Hébreux n'ont pas réussi à les déloger, ou alors ils ont voulu les laisser. Il suffit que la conquête est encore que partielle. C'est réalisé, mais pas parfaitement. Ça continue. Pour ce qui est des nations, on a, pour l'instant, c'est par petites touches, des nations qui régulièrement reconnaissent qu'il y a une bénédiction qui est associée à la famille d'Abraham. C'est ainsi que Laban va dire à Jacob, c'est Jacob, c'est à cause de toi que le Seigneur m'a béni. Plus loin, au sujet de Joseph, qui se retrouve, vous savez, en Égypte, on dit, le Seigneur bénit la maison de l'Égyptien, Potiphar, à cause de Joseph. La bénédiction de Joseph fut sur tout ce qui était à lui. C'est comme si la bénédiction était contagieuse, entre guillemets, c'est une façon de parler. Plus sérieusement, ça veut dire que le Seigneur, ben, il accomplit sa promesse. Il bénit les gens qui bénissent Joseph, qui sont autour de lui. Il fait rejaillir la bénédiction sur ceux qui sont autour de la descendance d'Abraham. Toutes les nations de la terre se béniront en toi. Ça commence à s'accomplir de manière individuelle. On a même quelque chose d'assez hallucinant, parce qu'à la fin de la Genèse, on a Joseph qui est face au Pharaon et il bénit le Pharaon. Je ne sais pas pour Joseph, c'est un petit peu comme si moi j'étais invité dans le bureau ovale avec Obama, il me disait « vas-y, prie pour moi s'il te plaît ». Je prendrais une photo et je montrerais ça à mes enfants, mes petits-enfants et tout, quoi. C'est le truc de ma vie. Enfin, après mon mariage, mon enfant, bref. Mais c'est quand même pas mal. Joseph se retrouve, Jacob, je fais que switcher entre les noms, Jacob se retrouve face au Pharaon, dans le bureau ovale, égyptien, et il le bénit. Mais si on vous dit toutes ces petites choses-là, toutes ces petites phrases, c'est pas juste pour faire joli, pas juste pour rendre les récits sympathiques, vous dire tout se passe bien. À chaque fois, l'auteur biblique vous fait un méga clin d'œil en disant, t'as vu, cette promesse que Dieu a faite à Abraham, elle s'accomplit. Et puis, une fois que j'ai dit tout ça, c'est pas encore parfait, la promesse. C'est mon tout dernier point. Quand est-ce que la promesse s'accomplit totalement, de manière pleine et entière? Et il faut attendre un paquet de temps. Les choses vont continuer, la terre promise, on l'a. Le peuple, il continue à croître. Les nations, on a toujours des choses intéressantes. Par exemple, Ruth, qui va devenir une Israélite, etc. On a des gens comme ça qui viennent dans le peuple de Dieu. On a des choses sympathiques, mais ça, ce n'est pas encore l'accomplissement total. Si vous lisez le Nouveau Testament, vous pouvez voir que chacun de ces éléments est comme transfiguré. Avec la venue de Christ, on passe à une dimension totalement supérieure. Et donc, pour finir, je vous lis dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3, quelques versets. C'est l'apôtre Paul, juif de chez juif, pharisien, le théologien top de son époque, qui ne croyait pas en Jésus, qu'il a rencontré et qui a bien dû se rendre à l'évidence. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans Galates chapitre 3? Je lis quelques extraits. Verset 6. Ainsi Abraham crut Dieu et cela lui fut compté comme justice. Reconnaissez-le donc, ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens non-juifs par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Paul pratique la méthode OIA, il en est à I et presque A. Il dit ça, c'était il y a longtemps, eh bien ça s'applique, ça se réalise aujourd'hui. Et si vous lisez ça rapidement, vous dites, oui, bah, c'est du Paul, c'est très dense, etc. Mais regardez dans le détail. Ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Et ça, il va le redire un petit peu plus loin, à la fin du chapitre, verset 29. Allez, on va dire 28-29. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham et héritier selon la promesse. Paul, et ça devait être complètement hallucinant de son temps, est en train de nous dire, Abraham, d'accord, c'était un modèle de foi. C'est vraiment le prototype, le type qui a eu la foi, qui a cru en Dieu, qui a déménagé à cause de lui, qui a failli tuer son fils pour Dieu, etc. Mais sa descendance dont on vous parlait dans Genèse 12, c'est pas complètement réalisé, même à l'époque de Salomon où le peuple est comme le sable au bord de la mer. Sa vraie descendance spirituelle qui est extrêmement plus nombreuse, c'est tous ceux qui ont la foi en Christ. Autrement dit, ceux qui sont dans cette salle sont concernés directement par ces versets. Genèse 12 s'accomplit, n'est pas totalement accompli si on ne vous prend pas en compte, si on ne me prend pas en compte non plus. Nous sommes les enfants de la promesse qui était faite à Abraham. Et donc, nous mettons le doigt dans l'œil jusqu'au troisième sous-sol. Si nous croyons qu'il y a seulement un peuple juif qui est spécialement béni, c'est vrai, c'est un peuple élu, Dieu prend soin de la descente, etc. Mais la descendance spirituelle d'Abraham, les enfants d'Abraham spirituels, c'est nous-mêmes. Nous sommes à une étape précise du plan de Dieu, dans ce plan, et le coup de booster là, qui avait été donné par Dieu en Genèse 12, comme j'ai dit au début, ça pousse tellement loin que ça nous rejoint et ça va jusqu'à nous. Nous sommes en plein dans l'accomplissement de la promesse. Nous sommes les descendants d'Abraham. Nous sommes bénis grâce à lui, notre sauveur à tous. Le nouvel Adam qu'on attendait, c'est justement un descendant d'Abraham. C'est cette descendance qui nous l'a apporté. Il est né il y a 2000 ans, en plein territoire juif. Tout ça, c'est pour nous. Toute cette promesse, elle ne concernait pas tellement, c'était même pas l'histoire d'avoir le pays promis, Canaan. C'était même pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce qu'on vit en Christ. Et notre terre promise, dans le Nouveau Testament, c'est pas tellement d'avoir un pays précis, c'est même pas ça du tout. C'est ce que le Seigneur apportera à son retour, une terre renouvelée. Et cette fois-ci, la descendance d'Abraham que nous sommes aura une terre renouvelée, en paix avec Dieu, illuminée par sa présence. Nous serons un peuple nombreux dans la présence de Dieu, grâce à notre Sauveur Jésus. Merci Seigneur.